Alors, on va rester sur ce qui est le cœur du réacteur de la réforme, hein, il faut être honnête. Cécile Philippe, c'est quand même la réforme de l'État. Alors, moi, je suis très content de vous avoir parce que...
c'est lié, hein, exactement, à ce que vous voulez dire, vraiment.
Attendez, si je vous invitais tous les deux, quand
c'est
même...
C'est parfait,
c'est pas un pur hasard. Dans Trop tard pour la France, alors, moi, d'abord, ce qui m'a plu, c'est que quand même... Parce que vous parlez pas que de la France, vous avez une analyse de la crise aussi. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que c'est... un peu un petit traité d'économie autrichienne appliqué à la crise actuelle. Alors, ouais, juste un point d'abord, vous dites, ne cédons pas à l'illusion des politiques budgétaires, des politiques monétaires pour nous sortir de la crise. C'est pas du tout la bonne réponse à apporter.
Absolument. Et je pense que malheureusement, c'est celle que sur laquelle tout le monde se focalise. Hein, vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec la Bénomics, avec la BCE qui vient de dire qu'ils étaient prêts à tout faire, y compris racheter la dette de l'État. Je pense que c'est ce qui a causé la crise de 2008, c'est ce qui a causé la crise de la bulle Internet.
C'est, et en gros, les c'est précédentes. Quoi c'est cette création c'est massive
de monnaie, en fait. Vous savez que la monnaie, maintenant, elle est, j'ai envie de dire, complètement institutionnelle. Elle a été déconnectée de toute marchandise. Donc, en fait, elle ne dépend que du bon vouloir, hein, d'entités, d'autorités qui vont la manager, hein, c'est un bien public par excellence, et donc en fait elle est très facile à créer, et elle a été créée surtout depuis les années 70 dans des proportions énormes, et qui régulièrement crée ce qu'on appelle le fameux cycle économique. Les économistes autrichiens sont très connus pour leur analyse du cycle économique avant même d'être connus pour leur solutions, hein, qui sont
cycle économique provoqué par les fluctuations
par la création monétaire excessive qui va donc s'investir dans des tas de projets d'investissement, mais qui malheureusement vont pas tous pouvoir aboutir. Et il y a toujours un moment où en fait ça explose, parce qu'en fait il manque des ressources réelles. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que pour les réaliser ces projets, il faut des ressources, mais que tout le monde est en compétition pour les avoir, et en particulier les consommateurs, qui finalement, au bout du compte, disent toujours ce qu'ils préfèrent. Et donc, il y avait une pyramide de projets qui ne pourront pas être menés à terme. Et c'est là que la crise arrive, et que la bulle explose, et qu'on se retrouve...
Et en fait, votre diagnostic, c'est qu'on va de bulle en bulle comme ça, et que la prochaine sera encore plus terrible.
Exactement. Et vous avez même des économistes comme Paul Krugman qui en sont à presque défendre la recréation d'une nouvelle bulle pour relancer l'économie. Vous voyez, on en est ce que j'appelle un peu des folies, parce que c'est extrêmement dangereux. Quand vous créez une crise, vous créez du chômage, vous créez des faillites en pagaille, etc. Et une grande peur chez les gens. Et évidemment, des réactions qui sont aussi fortes que la violence.
Alors vous dites la vraie façon de sortir de la crise, c'était de faire les fameuses réformes structurelles,
absolument,
un terme qui est devenu générique et presque abstrait. Mais il faut partir du diagnostic, parce que quand vous dites, par exemple, quand on en vient à la France, vous dites qu'il y a une espèce d'arnaque intellectuelle, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est rentré dans l'ère du capitalisme
triomphant, libéralisme, etc.,
alors que la France n'a jamais été aussi étatisée, finalement.
Et oui, et vous savez quoi ? On peut presque dire ça de tous les pays développés, parce que si on regarde l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de la croissance, j'ai envie de dire, non interrompue des sphères publiques dans tous les pays développés. Alors la France, évidemment, est presque un cas extrême. On avait 10% de dépenses publiques au début du XXe siècle. Vous voyez, on en est pratiquement à 57%. Les chiffres, on pourrait rentrer dans les chiffres. Je pense que beaucoup de gens les connaissent maintenant, mais on a explosé des records en la matière qui indiquent effectivement que la place de l'État, et en fait, dans l'État, il faut bien comprendre pas simplement l'État, mais la sphère publique. En fait, le fait que vous allez avoir des choix publics qui se substituent aux choix privés progressivement, au fur et à mesure que finalement...
Vous avez une phrase que j'ai dans votre livre que j'aime bien, qui résume assez bien ça, c'est vous dites: nous avons été dépossédés de notre responsabilité et de notre pouvoir à gérer nos vies.
Et voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, vous le voyez pourquoi? Parce que finalement, regardez, l'ensemble des risques dans notre société sont gérés de façon publique. C'est-à-dire le risque santé, le risque retraite, le risque chômage, le risque technologique avec le principe de précaution. Alors. Mais attendez, c'est tout le problème, je pense, et c'est lié exactement à ce que vous disiez, c'est que en fait, on a une gestion publique, c'est-à-dire centralisée, c'est-à-dire qui refuse diversité, qui ne donne pas aux individus la capacité de s'exprimer.
Alors, attendez, parce qu'il y a deux aspects dans votre raisonnement. il faut reconnaître qu'il y a un aspect philosophique.
Absolument.
Qui vous appartient
qui
totalement,
m'appartient,
qui consiste à dire, moi, ce que je revendique, c'est la liberté et la responsabilité.
Absolument.
Et ça, il appartient à chacun de se faire un avis.
Absolument.
Mais moi, l'aspect qui m'intéresse aussi, c'est la question de l'efficacité.
Exactement.
Moi, si je dis, je suis pragmatique, je veux des solutions qui marchent.
Absolument.
Je veux que vous me prouviez que ça marche mieux que le reste. Et dans votre livre, il y a un aspect, moi, qui m'a intéressé, c'est ce que vous dites sur le système de santé.
Ouais.
Vous dites, par exemple, contrairement à ce qu'on croit, le système de santé français avant la sécurité sociale de l'après-guerre fonctionnait très bien en n'étant pas du tout un système italien. Alors racontez-nous comment
oui,
ça fonctionnait.
Oui, c'était les premières expériences que très peu de Français connaissent parce qu'il y a finalement peu de travaux là-dessus. Mais c'est ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels. Les sociétés de secours mutuels en France au 19e siècle, avant d'être réglementées, parce qu'en fait le problème, c'est qu'elles ont été extrêmement réglementées à la fin du 19e puis début 20e. Bien, ces sociétés de secours mutuels, elles s'occupaient de gérer les retraites, elles s'occupaient de la santé, elles s'occupaient même du chômage. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand vous regardez ce qu'elle faisait, évidemment, c'était des balbutiements, c'était le début, on était au début de la protection sociale, mais c'était extraordinaire de voir qu'elles avaient déjà tout compris en matière assurantielle. C'est-à-dire qu'elles étaient capables, elles ont créé le ticket modérateur, elles ont créé les négociations. Les pharmaciens commençaient à faire une inflation des prix, elles disaient, ok, ben nous on va créer des pharmacies. Les médecins, pareil, parce que vous savez que les médecins se sont aussi organisés, on fait des lobbies, etc. Et vous êtes trop cher, vous commencez à être trop cher, ben vous savez, nous on va salarier des médecins, parce que on veut de la prévention. Enfin, il y a une histoire d'une sorte de foisonnement et qui vous fait penser forcément que la concurrence a quand même du bon et ça permet de faire émerger des solutions.
Dernier point avant qu'on conclue ensemble. Ce que vous dites, par exemple, typiquement, dans le même esprit, sur le rôle de l'État, de la dépense publique.
Oui.
Philosophiquement, on comprend qu'une trop grande présence de l'État, vous, c'est pas votre cam.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, sur l'efficacité? En gros, est-ce que la réduction de la dépense publique, est-ce qu'on prouve que ça marche mieux, ça fait plus de croissance que un État fort ou pas?
Bah, écoutez, déjà, enfin, jusqu'à il suffit de regarder les expériences déjà à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup regardé celle, par exemple, du Canada. Vous en avez parlé. Alors là, c'est extraordinaire. C'est là où vous vous rendez compte que l'austérité comprise comme la réelle baisse des dépenses publiques, et plus encore comme la redéfinition des missions de l'État. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Réforme structurelle, c'est pas juste réforme structurelle ou réforme territoriale.
C'est pas juste couper quelques dizaines de milliards d'euros dans la dépense publique.
Exactement, c'est pas des coupes, c'est pas des rabotages. Il faut vraiment avoir une vraie réflexion philosophique sur ce qu'on pense vouloir continuer à faire à travers la sphère publique et ce qu'on pense que les individus seront mieux à même de faire. Et si on pense que justement les individus ont des ressorts insoupçonnés, ont des connaissances extrêmement importantes, bien plus importantes que le bureaucrate de Bercy ou la personne qui ne connaît pas les problèmes, et bien on sait qu'il va y avoir des solutions qui vont émerger et qui vont résoudre.
C'est ma dernière question à laquelle j'aimerais que vous répondiez tous les deux d'ailleurs, c'est est-ce que les Français sont prêts?
Non.
Ah, moi, j'ai ma réponse.
Alors, allez, donnez-la nous.
C'était il y a deux jours dans Le Monde, il y avait un sondage Ipsos disant qu'il y avait aujourd'hui 87% des Français qui disaient qu'ils appréciaient l'entreprise.
Ouais.
C'était un truc hallucinant, dont 75% du front de gauche. C'est vous dire.
Oui, mais c'est pas le premier sondage. Oui. Vous avez raison. Il y en a plein. Oui. Ils trouvent qu'on en fait pas assez pour les entrepreneurs. Ils trouvent qu'il y a trop de dépenses publiques, que la France n'encourage pas la réussite.
Il y a 20 ans, c'était l'inverse. Il y a 20 ans, c'était l'inverse. Ça veut bien dire que le choc du réel est en train de faire prendre conscience à un nombre croissant de Français qu'il va falloir dorénavant qu'on fonctionne autrement. Et ils ne le disent pas avec tristesse, ils le disent finalement avec envie, puisque l'entreprise, c'est l'aventure.
Mais alors, Cécile, globalement, tous les partis politiques, les syndicats, etc., qui réclament aujourd'hui, qui revendiquent davantage de protection, ils sont complètement à contre-courant, finalement.
À court terme, oui. À moyen terme, je pense que je voulais dire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, pour le moment, je suis un peu moins optimiste sur maintenant. C'est-à-dire que je pense que les Français sont en cours de véritable évolution et de mentalité qui change.
Mais quand les Anglais ont choisi Margaret Thatcher à la fin des années 70, c'était un pays socialiste.
Absolument.
Quasiment. Les Anglais, ils se sont pas convertis comme ça du jour au lendemain au libéralisme.
Non, absolument. Ils ont été confrontés au réel. C'est-à-dire que là-bas, la crise a été tellement forte, le système des services publics ne fonctionnait plus du tout. Et là, ils se sont dit, il nous faut autre chose. Et je pense que nous, en France, on est en train d'arriver. Sachez qu'au Canada, il a fallu 20 ans pour créer le consensus avant d'arriver à une redéfinition des missions de l'État. Nous, ça fait déjà déjà un moment que les choses sont en train de se faire et que le réel est en train de nous dire stop, on n'en peut plus, le chômage, je crois que les Français, ils n'en peuvent plus, ça fait 30 ans que ça dure. Donc il y a un moment où je pense qu'on voit la réalité telle qu'elle est et on veut des solutions différentes.
Ils sont contents presque, soulagés, je veux dire, de prendre eux-mêmes leur destin en main.
On ne peut plus accepter la phrase intelligente de Denis Oliven qui disait « En France, le chômage n'est pas un problème, c'est une solution. » Ça arrangeait tout le monde, sauf les chômeurs.
Exact.
Et bien maintenant, c'est plus tolérable.
Exact. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, comme de coutume dans cette émission, Hervé Seriex, je vous offre l'ouvrage de Cécile Philippe. Super. Et Cécile Philippe, je vous offre l'ouvrage d'Hervé Seriex.
Excellent.
Merci beaucoup.
Merci encore. Merci encore à tous les deux.